Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Exploration psychédélique, une série de Marie Chartron réalisée par Diffy Mariani. Au départ de cette série, il y a le titre de cette émission qui se devait forcément d'explorer la question et se souvenir de la fin d'été 1969, il y a 50 ans, de la grande fête folle de Woodstock et aussi ceux qui travaillent sur le psychédélisme aujourd'hui. Alors pour commencer, les personnages. Une vieille dame délicieusement expérimentale, un homme qui aimerait trouver les mots, un historien de la médecine, une chercheuse et les effets bénéfiques, un sociétaire enthousiaste et un jeune homme cyberdélique. Ensuite le décor, l'Angleterre, un chemin bordé de champignons, la mystique, l'ineffable, la recherche sous LSD, une société psychédélique, un effet antidépresseur, une chauve-souris, un lapin, la médecine, la productivité en embuscade et de l'amour au bout du tunnel. Aujourd'hui, 4e épisode, on voit des choses.
You want me to describe what you're seeing? Is that what you want?
Drinking with your eyes.
En terre psychédélique, la renaissance psyché, Marie Chartron, Diffy Mariani.
You are in a house, in a body. In a bed.
Je suis dans une maison,
and your phone,
dans un corps,
the left hand side,
dans un lit.
Starts ringing.
À ma gauche,
you wake
mon
up.
Téléphone commence à sonner.
You grab your phone on the left.
Je l'attrape,
you pick
je
it up,
décroche.
And you see,
je comprends que c'est mon patron à l'autre bout du fil.
Calling you.
Vous êtes
You're
en retard.
Late.
On
We're
vous attend.
For you. Where are
Où est-ce
you?
Que vous êtes?
Come right now.
Venez tout de suite.
You're supposed to be
vous étiez
here at
censé
night.
Être là à 9h.
You went downstairs.
Je descends
you
les escaliers.
The door of your house.
J'ouvre la porte.
At your phone while
je regarde mon téléphone en marchant,
running.
En courant presque.
And when you cross the street,
je traverse
you don't
la rue.
Realize, but there was
je ne l'avais pas remarqué.
Really fast,
une voiture arrive vers moi à toute vitesse.
Hit you.
Elle me frappe de plein fouet. Sur l'eau calme, voguant sans trêve, dans l'éclat du jour qui s'achève, qu'est notre vie, sinon un rêve.
Je rapetisse. Oh. Oh là là.
Tu passes et repasses de l'autre côté du miroir, Alice, depuis 150 ans. Quel morceau de rêve, quel repli de ton cerveau te reste-t-il encore à explorer ? Je me mets en quête de réponses à tes côtés. Sais-tu que depuis quelques années, on entend parler de renaissance psychédélique ?
Le terme, on le doit, si je ne me trompe pas, à un psychiatre britannique qui s'appelle Ben Cessa, qui a publié un ouvrage qui s'appelle « La renaissance psychédélique ». Parce que, après la prohibition des substances psychédéliques, au niveau planétaire à peu près en 1971, la recherche avait quasiment cessé.
Vincent Verroust, historien de la médecine et fondateur de la Société psychédélique française.
Il a fallu le courage de chercheurs américains qui ont fait des demandes d'autorisation et qui ont finalement été acceptées. Et donc ça reprend vers le début des années 2000. Et depuis une quinzaine d'années, un certain nombre de laboratoires de recherche s'intéressent aux propriétés thérapeutiques des substances psychédéliques.
I'm looking for Beckley Park, Mrs. Strobing.
It's the other house down there.
Oh, okay.
Bye. Lewis Carroll a écrit Ton pays des merveilles en rêvant, dans la campagne verte, à côté d'Oxford. Et c'est à Oxford encore, plus exactement à Beckley Park, qu'il me faut retourner aujourd'hui, Alice, pour comprendre la renaissance psychédélique, une histoire décidément britannique. La fondation Beckley se cache au bout d'un long chemin bordé de champignons sculptés, très vaste, rempli d'objets beaux et surprenants. Les arbres du parc sont taillés en forme de spirale, d'oiseaux, de dômes, de pyramides. La présidente de la fondation ne s'appelle pas Alice, mais Amanda Fielding. Et c'est sans doute en partie sous son impulsion que les recherches scientifiques ont repris depuis une décennie.
J'imagine que ce qui m'a réellement enthousiasmée à l'époque, c'était cet intérêt grandissant pour la compréhension du soi. Le soi avait toujours été mon sujet de prédilection d'une certaine manière. C'est pour ça que j'ai étudié les religions et le mysticisme. Et avec la nouvelle approche physiologique et scientifique que j'avais entrevue, c'était très excitant. À l'époque où j'étais une petite fille esselée, je me baladais partout dans cet endroit, qui est presque un monde à part entière. C'est une île qu'on découvre au bout d'un chemin chaotique, au bord d'un marécage. Il y a de vieilles maisons, des pavillons de chasse de style Tudor ou de style médiéval, entourés de trois grains de sable. Donc, quand vous êtes là et que le vent hurle, qu'il n'y a personne à part votre famille, vous avez l'impression d'être seul au monde. J'avais des rêveries héroïques. Par exemple, je rêvais d'aller irriguer le désert, d'être une héroïne. Et quand j'ai eu accès à ces connaissances, j'ai pensé, ma mission, c'est d'irriguer le désert du cerveau humain. D'en faire un champ fertile.
In farming terms, everything depends on irrigation. It's quite a long story because it's 50 years.
C'est une longue histoire puisqu'elle dure depuis 50 ans.
Trying to put it briefly,
Mais grew up here. Pour être brève, j'ai grandi ici, dans cet endroit très isolé. Et à 6 ou 8 ans déjà, j'étais passionnée par les états de conscience et les états mystiques. Mon parrain est devenu moine bouddhiste, un moine très réputé. Et nous vivions dans un lieu plutôt mystique. Il n'y avait pas d'enfants, pas de jouets, rien. Donc, la seule chose à faire, c'était observer, se plonger dans ses pensées. Ça a toujours été une passion. Les religions comparées, les mystiques et les différents états de conscience, c'était des thèmes prédominants dans ma jeunesse. Puis, à 16 ans, j'ai découvert le cannabis, que j'ai trouvé incroyable. La première fois que j'en ai fumé, c'était en écoutant Ray Charles, comme presque tout le monde à l'époque d'ailleurs. Soudain, on l'entendait de manière tellement plus profonde. Et à partir de là, j'ai pris le chemin de l'enquête. C'était en 1960. Cinq ans plus tard, j'ai été initiée au LSD et j'ai réalisé que c'était réellement ce sur quoi j'enquêtais. C'était ça, l'expérience que j'étudiais. J'étais stupéfaite de la façon dont on pouvait entrer dans un état mystique, dans un état de conscience altéré. Je trouvais ça absolument extraordinaire et amusant. Mais en même temps, pour moi, ça s'apparentait plus à un tour à la fête foraine qu'à un réel mode de vie. On ne pouvait pas vivre dans cet état, mais c'était une expérience incroyable.
Si je prends une substance psychédélique, qu'est-ce que ça fait ? En fait, ça fait jamais la même chose. C'est imprévisible. Et ça dépend aussi des doses que vous prenez. Donc quand on en prend beaucoup, oui, on peut s'attendre à avoir des expériences spirituelles, vraiment avoir la sensation d'être en présence du sacré. Et si on écoute de la musique, ça, elle va provoquer la formation d'images incroyablement complexe et encore plus incroyablement magnifique, et qui se transforme en permanence, indescriptible. C'est très difficile. L'expérience, on dit souvent qu'elle est ineffable. Vous ne pouvez que rapporter des bribes de description avec des métaphores, parce que vous ne pourrez pas, même si je devais dessiner ce que j'ai vu, j'en serais absolument incapable. C'est tellement riche et complexe et magnifique, et ça bouge tout le temps, avec plein de couleurs. Et vous avez des souvenirs enfouis qui peuvent ressurgir. Vous pouvez avoir... Un jour, j'ai eu l'impression que des personnes que j'aimais et qui sont malheureusement décédées venaient habiter mon corps l'espace d'un instant pour revivre un peu dans ce monde. Vous voyez, donc je retrouvais vraiment le souvenir précis des voix, des intonations, de personnes... Vraiment, vous savez, quand vous perdez quelqu'un, au bout d'un moment, on oublie la voix, les gestes. Et là, tout était vraiment heureux. C'est plus qu'une réminiscence, quoi. C'est une reviviscence. Je crois que c'est Jean Delay qui disait ça lui-même après avoir fait l'expérience de la psilocybine. Il avait retrouvé le jardin de son enfance. Donc on a comme ça accès à soit une connaissance qu'on a perdue, oubliée, soit des intuitions fulgurantes, l'impression d'avoir une compréhension accrue de la complexité du monde. Et éventuellement, on peut passer aussi par des moments tout à fait désagréables, de désespoir profond. J'ai pu avoir tellement de tristesse pour les personnes qui sont victimes de violences sur cette planète. On peut avoir vraiment des réflexions comme ça, avec une sensibilité accrue aux sentiments d'autrui.
LSD, psilocybine, des substances très puissantes qui entr'ouvrent les portes du cerveau, creusent plus profondément ces gouffres. À Londres, elles sont étudiées à l'hôpital Hammersmith, au King's College et à l'Imperial College. Aux États-Unis, à l'université Johns Hopkins de Baltimore. Des taches de couleur dans l'imagerie cérébrale, des chiffres, c'est avant tout dans le champ des sciences que s'entend aujourd'hui la renaissance psychédélique, dont les différents acteurs tiennent à se distancer explicitement des dérives des années 1960.
Pendant toutes ces années, avec d'autres, nous avons fait notre possible pour faire avancer la recherche, pour mobiliser le corps médical et les scientifiques. Mais ça ne marchait pas. Et je me suis rendu compte que quand on est une femme seule, qui a quitté l'école à 16 ans sans aucun diplôme, sans le sou, sans aucun pouvoir, il est difficile de faire changer le monde. Mais en devenant une fondation, je susciterai davantage le respect. Je pourrai avoir plus d'impact. Et ensuite, très gentiment, l'un des plus éminents neuroscientifiques d'Angleterre, le professeur Colin Blakemore, a proposé de faire partie de mon conseil consultatif scientifique. Il a été rejoint ensuite par de nombreux autres, dont Albert Hofmann, le découvreur du LSD, et Sacha Shulgin. J'avais donc un conseil consultatif scientifique très respectable. Mais j'ai réalisé que c'était malgré tout impossible de faire de la recherche, parce que même si les recherches scientifiques étaient autorisées par la Convention de l'ONU, aucun scientifique ni aucune institution n'osait s'y aventurer, par peur de perdre des subventions ou de ternir leur réputation. Ils pouvaient tout au plus produire des conclusions scientifiques négatives. Jamais ils n'auraient pu dire que ces composants étaient prometteurs. Donc, j'ai compris qu'il faudrait changer l'ensemble de la politique en matière de drogue pour que la recherche puisse se faire. Ça a été un cauchemar, mais j'ai fait ça pendant 10, 12 ans. Je donnais des conférences à la Chambre des Lords, passant du temps à leur côté, essayant de mettre en place des actions encadrées. Et je pense que ça commence lentement à avancer.
Stephen Reed, fondateur de la Société psychédélique anglaise.
La Société psychédélique britannique s'est développée très rapidement ces dernières années. Mais il y a des sociétés psychédéliques qui émergent un peu partout dans le monde aujourd'hui. C'est une période très intéressante pour le mouvement. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons appris que la ville d'Oakland, en Californie, est devenue la seconde ville à dépénaliser les champignons magiques, les champignons à psilocybine. et toutes sortes d'autres plantes entéogènes, c'est-à-dire des plantes psychédéliques. Au Royaume-Uni aussi, nous assisterons à des changements dans la loi pour que ces substances soient disponibles et accessibles aux gens de manière raisonnée.
D'un jardin à l'autre, la quête continue au cœur de Paris. Le jardin des plantes est sagement bordé par les bâtiments du muséum. Vincent Verroust est historien de la médecine et travaille sur les archives du professeur Roger M., ancien directeur du Muséum d'histoire naturelle de 1951 à 1965, mycologue, auteur de recherches fondatrices sur les champignons hallucinogènes du Mexique.
Nous sommes dans l'allée centrale du Jardin des Plantes. Observons quelques plantes psychotropes, peut-être des plantes psychédéliques si on en croise, et notamment la canne de Provence. Il est fort possible que ces racines contiennent de la DMT, diméthyltryptamine, un composé hallucinogène, le principe actif de l'ayahuasca, le breuvage hallucinogène amazonien. Donc ce principe actif pourrait être présent dans les racines de cette plante qui ressemble à un roseau. Et un peu plus loin, on a du datura, qui est une plante hallucinogène aussi, mais qui n'est pas une plante psychédélique. Et à côté, on a la belladone. C'est une autre plante. Alors au passage, ça doit être un jeune pavot à opium qui pousse, parce qu'on est dans le coin des plantes à alcaloïdes. Et là, vous avez la belladone, qui contient de la tropine, de la ioscamine, de la scopolamine. Est-ce que j'en oublie une ?
Ce qu'on appelle psychédélique, c'est les substances qui activent le récepteur sérotonine 2A.
Valérie Bonnel, docteur en neurosciences.
Le récepteur qui est impliqué dans l'effet vraiment psychédélique, donc l'effet d'expérience mystique, de dissolution de l'ego. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les psychédéliques classiques, psilocybine, LSD, on a aussi le DMT, l'ayahuasca. En général, les drogues qui sont hautement addictives, c'est des drogues qui touchent au système de neurotransmetteurs particuliers, donc soit le système opioïde, soit le système dopamine. Ici, ça touche au système de sérotonine. Voilà, il n'y a aucune addiction avec les drogues qui interagissent avec ce neurotransmetteur-là. Ça ne touche pas au centre du plaisir, quelque chose qu'on a envie. Après, il y a aussi le fait que c'est une expérience assez intense, difficile, qui demande un certain courage quand même d'aller explorer ça. C'est pas quelque chose qu'on a envie de prendre tous les jours. Donc le LSD, ça dure assez longtemps. Une dose normale de 100-150 microgrammes, ça peut durer jusqu'à 10 heures. La psilocybine, ça dure beaucoup moins longtemps. Là, on parle de plus d'effets environ 6 heures. Après, il y a des drogues qui durent encore moins longtemps, avec des effets psychédéliques, donc comme le DMT, par exemple, ou le 5-MeO-DMT, où là, les effets durent 10 minutes à une demi-heure. Qui peuvent être extrêmement intenses, mais qui durent très peu.
Une étude qui a été fort remarquée, celle qui a été menée à l'Imperial College de Londres, avec des personnes qui souffraient de dépression, et qui souffraient de dépression depuis longtemps, et pour lesquelles les médicaments conventionnels ne faisaient rien. On leur a administré une dose forte de psilocybine, et tous ont vu les symptômes de la dépression décroître. La substance a aussi été testée pour voir si ça pouvait pas permettre à des personnes tabagiques d'arrêter de fumer. On se rend compte que oui. 6 mois plus tard, 80% des personnes qui ont pris 1 à 3 doses fortes de psilocybine ont arrêté de fumer.
À l'hôpital Hammersmith, des personnes souffrant de dépression sévère, résistantes aux traitements médicamenteux, se sont prêtées à une longue étude encadrée par des médecins et des psychiatres. La substance est prise à l'hôpital, en présence du thérapeute, dans un environnement plus accueillant que l'habituelle blancheur des incarnés. Lumière tamisée, fleurs, paysages de forêt au mur, et musique atmosphérique, qui évoque bien plus Brian Eno que Jefferson Airplane. Et les drogues, parmi les plus contrôlées, sont aussi encadrées à l'hôpital qu'une arme nucléaire.
Ce sont souvent des expériences bouleversantes, qui vous font réfléchir sur le sens de votre vie, sur les liens qui vous lient à votre famille, à vos amis, à autrui en général. D'ailleurs, les personnes qui ont été traitées dans le cadre de cette étude sur la dépression, on a aussi pu mesurer chez eux une modification de leurs opinions politiques, avec un moindre goût pour les doctrines autoritaristes et une sensation accrue de se sentir connecté à la nature. La substance a aussi été testée avec succès pour traiter l'anxiété des personnes qui en avaient fait un diagnostic de cancer. Et on se rend compte que la substance permet à ces personnes d'avoir une fin de vie beaucoup plus apaisée. Ça soulage véritablement cette anxiété existentielle.
Il y a eu des résultats extrêmement positifs là-dessus, sur la psilocybine, sur des expériences psychédéliques, qui peuvent en fait, en un sens, te rapprocher d'une expérience de presque mort, et donc familiariser les gens avec l'expérience de la mort et les rassurer énormément là-dessus. La recherche a montré une amélioration dans plus de 70% des cas des patients qui étaient soignés de leur dépression ou anxiété en fin de vie. Donc c'est des résultats phénoménaux.
Vous avez momentanément dans votre cerveau des connexions entre des aires fonctionnelles qui habituellement ne communiquent pas ou très peu, et là où vous avez un très grand nombre de connexions qui se font. Donc vous avez des pensées insolites. En gros, vous frayez des nouveaux chemins que vous pourrez emprunter par la suite. Vous permettez à votre cerveau d'être dans une configuration tout à fait insolite, et quand vous revenez à l'état normal, vous avez plus de facilité à changer en fait.
Stephen Reed.
À l'Imperial College London,
les études ont commencé il y a une dizaine d'années. Pendant la première phase, on a simplement essayé de déterminer si les substances étaient dangereuses. La phase suivante a consisté à se faire une idée de leurs effets sur le cerveau. Une fois établi le fait qu'elles étaient inoffensives, et à partir du moment où on a eu une idée de leur action sur le cerveau, les études se sont dirigées vers les possibilités thérapeutiques et médicales.
Then the studies moved on to the therapeutic and the medical possibilities.
L'un des effets essentiels des psychédéliques dans ce contexte, c'est leur capacité à réduire l'activité dans le réseau du mode par défaut, comme on l'appelle. C'est une sorte de centre de contrôle à l'intérieur du cerveau. Il empêche différentes zones du cerveau de communiquer les unes avec les autres. C'est aussi à lui que l'on doit les rêveries et la rumination, et toutes les pensées qui nous viennent quand on ne se concentre pas sur une chose en particulier. Cette partie du cerveau est hyperactive chez les personnes souffrant de dépression. La rumination excessive est une caractéristique très marquée chez de nombreuses personnes atteintes de dépression. Elles ne peuvent pas trouver la paix, elles sont sans cesse assaillies de questions. Et l'un des effets de ces substances, c'est de baisser un peu la puissance de ce réseau du mode par défaut. Elles agissent également comme une sorte de bouton de réinitialisation, une sorte de ménage de printemps dans le cerveau, semble-t-il. Une fenêtre d'opportunité se présente dans les semaines suivant une expérience psychédélique. Le psychédélique, selon moi, ne fait que présenter une opportunité, une possibilité de changement. Il ne fait pas tout le travail pour l'individu. D'une certaine manière, il faut que l'individu veuille changer.
Je m'allonge.
On appelle en fait maintenant peak expérience et pas uniquement expérience mystique. Parce que maintenant on va parler de toutes les expériences qui sont d'une telle intensité, pas forcément mystique ou béatitude, ou voilà, ça peut être aussi une expérience très intense dans le négatif, de revivre une scène horrible ou traumatisante, ou voilà. Mais le fait de revivre cette expérience-là, dans ce cadre protégé, va permettre une meilleure intégration de cette expérience. On peut la procéder, la voir différemment, la comprendre un peu mieux sous un nouveau jour. Et c'est là que le processus thérapeutique se met en place aussi. Parce que du coup, c'est quand même complètement chamboulant ce qui se passe dans une expérience psychédélique. C'est tout d'un coup, on n'a plus d'ego, tout l'univers change. C'est très très dur, potentiellement, de retourner à sa vie de tous les jours. Ça sert à quoi le travail que je fais? Comment est-ce que je me resitue par rapport à ma famille, par rapport à mes amis? C'est pour ça qu'il faudrait faire en sorte que ces substances soient prises dans un contexte légal où on puisse développer des centres d'intégration, des centres de préparation où les gens qui veulent vraiment vivre cette expérience puissent le faire d'une manière saine, sans danger, plutôt que de prendre ça n'importe comment, sans ce qu'il faut pour vraiment pouvoir en bénéficier. Et auquel cas, oui, là, ça devient un petit peu risqué. Par exemple, les psychédéliques ne vont pas du tout être recommandés pour des gens qui ont peut-être des troubles bipolaires ou de la schizophrénie, ou même une tendance. D'ailleurs, pour les essais cliniques, les gens qui ont même quelqu'un dans leur famille qui a des troubles psychotiques sont exclus, ils ne peuvent pas participer. Il y a risque à tendance psychotique, donc on déconseille fortement. Mais en dehors de ça, je ne pense pas qu'on puisse rester bloqué dans le délire psychédélique. Une fois que l'effet se dissipe, une fois que la drogue disparaît du système sanguin, l'effet s'en va.
Le voyage est-il possible autrement? Quels moyens ai-je à disposition pour sonder mon cerveau, passer de l'autre côté du miroir, voir l'invisible? On me propose une expérience immersive de mort imminente en réalité virtuelle, casque sur la tête, conçue par des artistes et des chercheurs.
Here you're suspended in time and space.
Je suis suspendu dans le temps et l'espace. Je regarde autour de moi. Derrière moi, un petit point noir qui s'approche très doucement. Je m'approche de lui. C'est un trou noir. Et ce trou noir, juste devant moi, commence à absorber toute mon âme. Je passe à travers un portail d'images fractales, de lumière, de motifs holographiques. Il s'ouvre. Je suis guidé dans un tunnel. Là, une source de lumière blanche, un être de lumière. Il me dit, tu es au cœur d'une expérience, dans une dimension faite d'amour. Cette personne m'enveloppe de son amour, me guide à travers ma vie. Cette semaine à la Société psychédélique, lundi, les portes de la perception, un cours sur 4 semaines, mardi, la journée du son psychédélique et en même temps les neurosciences de la DMT. Mercredi, le cercle des hommes psychédéliques. Jeudi, members social. Qu'est-ce que c'est ça?
So the psychedelic society has,
la société psychédélique compte environ 600 membres. Ces gens versent une petite cotisation à l'organisation tous les mois. Et certains de nos événements leur sont réservés.
Vendredi, danse dans l'obscurité, de 8 à 10 heures. Et en parallèle, un bain de gong psychédélique toute la nuit.
Un bain de gong psychédélique, c'est... Voyons voir. Où est-il? Il est là. Voici un gong. Nous avons plusieurs guérisseurs par le son, plusieurs personnes qui jouent du gong. Cela peut durer toute une nuit. Les participants apportent des sacs de couchage et des tapis de sol et s'installent pendant qu'on joue de la musique. On peut atteindre des états tout à fait fascinants.
Le psychédélisme ne s'accompagne pas forcément de substances. Stephen Reed cite Alan Watts. If you get the message, hang up the phone. Si tu as reçu le message, raccroche le téléphone. La société psychédélique anglaise fait communauté. Elle est liée à la société cyberdélique, elle aussi créée à Londres, et certains de ses membres entretiennent par ailleurs des liens étroits avec les militants pour l'environnement d'Extinction Rebellion. Et je me pose des questions, Alice. Je me méfie de ce mot enivrant de résilience, de cette pensée magique de la Renaissance. De quoi parle-t-on et à qui parle-t-on ?
Il me semble que c'est un sujet dont on parle de plus en plus partout dans le monde, mais pas vraiment toujours de la même façon. Je pense que l'idée de société psychédélique se développe plus rapidement et suscite plus d'intérêt dans les sociétés occidentales. Je sais qu'il existe une société psychédélique en Inde. Je ne connais pas de société psychédélique en Afrique à ce jour. Il y a tout de même des organisations qui parlent de ces substances et de ces sujets sans être appelées nécessairement société psychédélique. Quand on pense à l'Afrique, plus précisément au Gabon, il existe une très ancienne tradition avec l'iboga, une plante hallucinogène qui est utilisée lors des rites initiatiques bwiti. De nombreux membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires sont passés par les rites bwiti. Est-ce que c'est un problème de faire partie de la société psychédélique ? J'ai un passé de militant politique. J'ai été arrêté à deux reprises et l'un de mes procès s'est tenu devant la cour de la couronne, qui m'a finalement déclaré non coupable. Mais d'une certaine manière, je suis connu des autorités. Donc, quand j'ai fondé la société psychédélique, je m'attendais vraiment à recevoir une lettre, à ce qu'on vienne frapper à la porte ou à ce qu'on m'envoie un email ou n'importe quoi me disant « Hey, qu'est-ce qui se passe ici ?» Mais il ne s'est rien passé.
Vous avez des sociétés savantes de tout un tas de choses, mais on s'est bien sûr inspiré de la société psychédélique anglaise qui, eux, font des choses que nous ne pouvons pas faire, à savoir proposer des initiations aux champignons hallucinogènes aux Pays-Bas. En France, il est interdit d'inciter à l'usage. Quand bien même l'usage se ferait en dehors du territoire national, je crois qu'il serait très risqué pour nous d'inviter les gens. Donc on ne fait pas ça. On fait par contre de la médiation scientifique et culturelle sur le sujet. Donc on propose des événements pour les étudiants et les chercheurs, des séminaires de recherche, et des événements pour le grand public, des conférences ou des projections. Voilà, on cherche à stimuler l'intérêt général autour des effets psychiques provoqués par ces substances. Il y a un séminaire de recherche mensuel en histoire des études psychédéliques qui a pu réunir donc des chercheurs en épistémologie, en histoire de l'art, en histoire des sciences. C'est assez amusant de voir qui fréquente les séminaires, parce que vous avez donc des étudiants, anthropologie, histoire, sociologie, vous avez aussi des internes en psychiatrie, des médecins, et tout un tas d'auditeurs et d'auditrices libres mystérieux, je ne sais pas qui c'est, et vous avez aussi des personnes d'un certain âge, des personnes très 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 vieilles qui viennent aussi. Donc ça fait un savant mélange, je dirais, de 20 à 97 ans. Il y a un début d'intérêt de la part du monde médical. Il y a eu un gros congrès de psychiatrie dernièrement, le congrès de l'encéphale, qui a consacré une session plénière entière aux psychédéliques. Prochainement, il y a le congrès de l'Albatros, qui est un congrès d'addictologie, qui va aussi aborder la question. Et je reçois des messages, des invitations de psychiatres ou de chercheurs du monde médical qui témoigne, oui, d'un intérêt pour la question en France, qui commence en tout cas. Et puis il y a des personnes qui sortent du placard et qui disent « Ah, mais c'est très bien ce que vous faites !» Il y a des personnes qui ont pu faire des demandes pour mener des expériences en psychiatrie, dans le traitement des troubles de stress post-traumatique, des choses comme ça, bon, qui ont été refusées. Voilà, il faut croire aussi qu'en France, c'est dangereux pour sa carrière de s'exposer en affirmant s'intéresser à ces choses-là. J'ai le témoignage de quelqu'un qui a démarré des recherches en neurosciences, à qui on a dit, si vous voulez faire carrière, ne vous intéressez surtout pas à ça. Voilà, c'est un peu tabou quand même, les drogues. C'est classé comme stupéfiant, donc c'est tabou, c'est mal vu.
En ce moment, nous avons un pied dans la culture dominante et l'autre dans la contre-culture.
From it being something,
nous travaillons à cette transition pour que cela cesse d'être hippie, dangereux et underground et devienne public et accessible.
Mainstream and accessible. That comes actually with its,
et cela se profile avec certains défis.
There's been some
Il y a des inquiétudes dans la communauté psychédélique au sujet des gros sous et des grosses entreprises pharmaceutiques qui s'intéressent de très près à ces substances. Et je pense que nous devons être très prudents afin de protéger tout le remarquable potentiel curatif et créatif de ces substances pour qu'elles ne soient pas contrôlées ou corrompues par l'influence du capitalisme.
Une incursion dans les ressources numériques me fait tomber sur une citation d'un jeune Américain, Paul Austin, qui se présente comme entrepreneur psychédélique. « Les microdoses de LSD augmentent notre efficacité. » Il a écrit un livre, « Microdoser les psychédéliques, guide pratique pour améliorer votre vie. » On semble bien loin de la subversion et des explorations artistiques étudiées par l'historienne de l'art Élise Grand-Georges.
Aujourd'hui, les études qui touchent en effet aux microdoses et à l'augmentation de la créativité par cette consommation sous-tendent que la créativité pourrait être une qualité utile au travail, etc. Donc, il y aurait ce type d'usage de nootropes ou de microdoses, particulièrement dans la Silicon Valley en Californie. Mais là, on est dans des usages qui, bien souvent, sont liés au monde du travail, quand même. Et à mon sens, créativité signifie aujourd'hui performance créative, ménager en quelque sorte une meilleure version de soi-même par un usage qui pourrait être quotidien ou alors plus ponctuel, lié à une productivité, à une production en fait. C'est une vision aussi qui n'interroge pas en fait le contenu des créations ou de la pensée, qui ne pense que la performance. Je pense que dans les années 60, on a beaucoup pensé le potentiel libérateur des hallucinogènes. En tout cas, si on revient par exemple à la pensée de Timothy Leary, il s'agissait vraiment de se défaire des normes et des usages sociaux par le biais des hallucinogènes. Et aujourd'hui, au contraire, il s'agirait donc de produire plus par ces hallucinogènes qui peuvent être utilisés donc comme étant des nootropes. Les nootropes sont des substances alors qui peuvent pour certaines être légales hein, comme la caféine ou la théine et qui permettent d'augmenter donc les capacités cognitives, d'améliorer sa résistance, sa concentration par un ensemble de consommation.
Ma vie défile, plus universelle, plus rapide. Les quatre éléments apparaissent.
Water, fire, earth and
le
air.
Feu,
and each of
la
them
terre
talk to you,
et
giving
l'air.
You a very specific message about our current
chacun de ces éléments me parle, me confie
after
un message.
Absorb this message.
Je comprends ce message.
The fifth element appears.
Le cinquième élément apparaît.
And this absorbs
l'éther.
You. Into another dimension,
il m'absorbe dans une autre dimension,
a hyper dimension this kind of
puis une autre dimension, transpersonnelle, kind of spirituelle.
Psycho-spiritual
j'entre en contact avec cette entité divine.
In which you are then getting in contact with this god-like entity. And
ici, pas
there
de
is
mots,
no words here, only music.
De la musique. La conscience, je pense que personne ne sait véritablement ce que c'est. Nous le devinons grâce à la science. Il y a encore 15 ou 20 ans, c'était un gros mot. Aujourd'hui, la conscience n'est plus taboue. Mais les états de conscience altérés, oui. Nous sommes à peine en train de sortir de cette phase. Les états de conscience altérés commencent tout juste à être reconsidérés. Nous en comprenons seulement certains aspects.
D'ailleurs, c'est ce qui est si merveilleux avec des composants comme les psychédéliques qui altèrent l'état de conscience. Parce que le seul moyen de connaître quelque chose, c'est de l'altérer et d'observer les différences. Et après tout, toutes les grandes pratiques spirituelles, comme le bouddhisme par exemple, sont centrées sur ça, la compréhension. C'est pourquoi les soufis et les mystiques sont si incroyables. Ils ont réussi à cristalliser cet état de conscience altéré. Pour moi, entrer dans un état de conscience altéré, c'est comme prendre le bateau pour un rivage inconnu. C'est plein d'aventures. D'ailleurs, j'ai toujours pensé qu'il fallait du courage pour prendre ces substances. Parce que la vie est bien plus simple quand on reste tranquillement sur la plage au milieu des vendeurs de glace.
On the shore with all the ice cream shops, but I think it's essential because at the moment.
Mais je pense que c'est essentiel parce qu'aujourd'hui notre espèce est touchée par une épidémie mentale.
Health epidemic. It's increasingly getting worse.
De plus en plus de personnes prennent des médicaments pour soigner la dépression et les addictions.
And all the psychological problems. So why is the human animal?
L'animal humain est incroyablement brillant, mais c'est aussi un raté qui fout tout en l'air. Il est triste et dangereux à bien des égards, bien qu'il soit extrêmement brillant et merveilleux quand il le veut bien. Comment peut-on se l'expliquer ? On a émis, entre autres, l'hypothèse de l'ego qui fonctionne comme un réflexe conditionné, qu'on développe en grandissant depuis notre plus jeune âge et qui se pose en contrôle inhibiteur du cerveau. Et ça devient, comme l'a observé Platon, une sorte de voile entre vous-même et votre perception de la conscience. Donc, vous voyez les ombres portées sur le mur plutôt que la réalité. Et c'est sans doute pour cela que l'homme est un animal aussi embrouillé. C'est parce que nous voyons toujours ces substituts de réalité.
Les drogues du futur seront les ordinateurs. Les ordinateurs du futur seront les drogues. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Alice, ni le lièvre de Mars. C'est Terence McKenna, un auteur et ethnobotaniste américain qui fut appelé parfois le Timothy Leary des années 90.
C'est bien de parler maintenant. Ce que nous voulons en réalité, c'est vous emmener en voyage, vous faire entrevoir les bases qui fondent le mouvement cyberdélique. Vous parler un peu de nos inquiétudes. D'où viennent-elles? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Où est la vision? Ensuite, je pourrai vous expliquer nos projets actuels. Et pour finir, faites votre propre expérience.
Quel morceau de rêve, quel repli de mon cerveau me reste-t-il à explorer ? Rosé Montemayor, née en 1993 avec la technologie, est technophile autant qu'il est technocritique. Il a cofondé la société cyberdélique avec Carl Smith et travaille à concevoir des expériences en réalité virtuelle, mixte ou augmentée. Il me donne un questionnaire.
A near-death experience.
Éveil virtuel. La mort n'est que le commencement. D'après une représentation conceptuelle d'une expérience de mort imminente.
It wasn't your time to die.
It wasn't your time to die.
Quelle est votre humeur actuelle? Quels mots vous viennent spontanément à l'esprit lorsque vous pensez à la mort?
Your time of death.
Quels mots vous viennent spontanément à l'esprit lorsque vous pensez à la vie après la mort?
I think what it's trying to convey is that it's some
c'est
sort
une
of
immersion dans le cyberespace qui se rapproche d'une expérience psychédélique.
A psychedelic experience. But again, it's difficult to define because
mais c'est difficile à définir, car chacun a sa propre idée du cyberdélique.
Some use it for recreational purposes.
Certains l'utilisent à des fins récréatives, et d'autres, comme moi, ont une approche plus médicinale et s'intéressent au potentiel curatif de cette immersion profonde qui permet de catalyser les transformations dans l'esprit des gens. Ce n'est pas nouveau. Et la réalité virtuelle n'est pas une chose nouvelle non plus. Ça vient des années 60 avec des prototypes assez primaires. Mais cette technologie a évolué au point que maintenant, c'est là. Dans mon smartphone, je peux vous emmener dans une expérience de réalité virtuelle avec mon téléphone.
Il nous faut contacter Carl Smith, qui est directeur de recherche à l'université de Ravensbourne. Mais pas de chance. Quand je le cherche à Londres, il est en Italie. La communauté cyberdélique aime l'ubiquité. Un dialogue silencieux se met en place, au clavier. Et si on essayait WhatsApp ? Et si on essayait Zoom ? Est-ce qu'ils sont prêts ? Oui.
Nous analysons spécifiquement la façon dont les gens utilisent la technologie pour apprendre. J'ai toujours été fasciné par la perception, la conscience, la technologie et la combinaison de ces trois éléments. J'imagine que j'ai ce qu'on pourrait appeler un passé d'explorateur. J'ai participé à de nombreux essais cliniques à l'Imperial College de Londres, à l'étude sur le LSD, où nous intéressions aux liens entre créativité et LSD, et plus récemment aux études sur la DMT, où l'électroencéphalographie était combinée à de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Il s'agissait d'observer l'effet de la drogue psychédélique sur le cerveau. La DMT est étudiée parce qu'elle a un effet spectaculaire sur la conscience. Je m'intéresse de très près aux effets radicaux de la technologie. Elle a de nombreux effets négatifs, qui sont ceux que les gens connaissent le mieux en général. En travaillant avec José, nous avons voulu créer des récits positifs autour de la technologie. De nombreuses personnes ne veulent pas consommer de substances psychédéliques, soit parce qu'elles sont illicites, soit parce qu'elles sont très difficiles à contrôler. L'un des aspects les plus importants des drogues psychédéliques, c'est que l'on perd le contrôle, on part en voyage. Avec les cyberdéliques, nous n'essayons pas de reproduire l'effet des substances psychédéliques. Nous essayons de créer une nouvelle gamme d'expériences qui permettront aux gens d'explorer leur conscience et leur perception de manière contrôlée. La raison pour laquelle les cyberdéliques reviennent en force en ce moment, c'est parce que nous avons à disposition des outils qui, pour faire simple, nous permettent de hacker notre propre conscience. Et c'est ce que vous pouvez voir. Vous pouvez voir votre propre cerveau, vous faites littéralement une espèce de rêve en boucle, dont le monde digital s'approche le plus possible avec le rêve lucide. Au Japon, par exemple, ils tentent de modéliser les rêves des gens. Donc si on arrive à capturer les rêves de quelqu'un, on peut se demander ce que représente un retour sur ses propres rêves, ce que c'est de pouvoir revoir ses rêves. Et que ce soit bon ou mauvais, il y a un film exceptionnel dans lequel les personnes deviennent accros au visionnage de leurs propres rêves et cessent de vivre dans la vraie vie. Je pense que nous devons être très prudents quant à l'utilisation de ces technologies parce qu'elles deviennent de plus en plus puissantes. Regardez l'imagerie cérébrale. Elle est encore très élémentaire à bien des égards, mais elle met le doigt sur quelque chose. Je suis très intéressé par le piratage des états subjectifs. Comment pouvons-nous entrer dans la conscience de quelqu'un d'autre? Comment pouvons-nous explorer l'état subjectif de quelqu'un? Comme Mark Farid, qui travaille à un projet appelé « Seeing High », c'est clairement une expérience cyberdélique, psychédélique, parce qu'il entre dans la peau d'autres gens. Via un casque audio et un Oculus ou un plus grand casque de réalité virtuelle, il va porter quelqu'un d'autre pendant un mois entier. Pendant un mois, il n'aura pas accès à ses propres yeux ni à ses propres oreilles et il entrera dans l'état de conscience subjective de quelqu'un d'autre. Il veut voir si sa propre personnalité commence à se dissoudre. La raison pour laquelle il mène ce projet, c'est explorer la solidité de l'identité narrative d'une personnalité. Quelle part de ce que nous pensons être existe objectivement et quelle part est en fait liquide et peut-être dissoute?
Mais pourquoi, Alice? Pourquoi donc voudrais-je entrer dans ta tête, pirater ton cerveau, vivre les morceaux de ton rêve, de ta folie, éprouver ta mort et ta vie?
Nous tentons de comprendre l'humain à travers ces technologies. Et nous observons actuellement une évolution de l'humanisme vers le transhumanisme, où nous pouvons peut-être commencer à rallonger la durée de la vie et explorer notre existence dans une temporalité bien plus longue. Parce que l'une des spécificités de la condition humaine, c'est la brièveté de la vie. Nous vivons environ pendant presque 1000 mois. C'est une période incroyablement courte. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le transhumanisme, mais plutôt l'hyper-humanisme ou le post-humanisme. L'une des principales caractéristiques de l'être humain, c'est qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire. On considère que le plus important, c'est l'humain. Le transhumanisme reprend cette conception où nous restons encore l'élément le plus important. Mais si on regarde vraiment ce que fait l'humain, on comprend que nous sommes comme un virus. Nous avons détruit 80% de tout ce qui existe. Toutes les autres espèces sont en train d'être décimées par nous. Alors pourquoi devrions-nous nous considérer comme les rois de la jungle quand nous sommes en réalité un parasite? Donc je suis très intéressé par le point de vue post-humaniste, où nous ne sommes plus considérés comme le sommet de la chaîne alimentaire. C'est une question d'humilité concernant l'expérience humaine. Et je pense que le travail que nous faisons avec la société cyberdélique s'apparente exactement à l'exploration de ces questions. Que sommes-nous? Quelles sont les limites de l'humain? Et comment pouvons-nous pirater et comprendre d'autres espèces? Comment pouvons-nous voir à travers les yeux d'une abeille et comprendre la vision d'une abeille? Nous travaillons entre autres avec la Transspecies Society, la société transespèce, une émanation du Cyborg Nest. Un ami à nous n'utilise pas la réalité virtuelle. Il a installé un système d'écholocation directement à l'intérieur de ses oreilles. Et toute une réflexion se met en place autour de la question, qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris? Comment pouvons-nous devenir une chauve-souris?
Then go into the birth canal.
Je glisse dans le canal de naissance.
Si vite. See the light again.
Je vois une lumière.
You find the earth.
Puis devant moi, la terre.
You go back slowly
lentement
into the earth,
vers elle,
zooming in
en avant,
into the
vers les montagnes,
in,
à l'intérieur des
forest,
forêts, jusque dans mon corps.
Embody again your body. And after the experience,
après l'expérience, je vous fais un signe.
A sign that you're ready to go back into this reality.
Je suis prête à retourner dans cette réalité.
So after you give us a sign, we ask
on me demande de
eyes.
Fermer les yeux.
We take
on
out
m'enlève
the
le casque. Je commence à me réincarner dans cette réalité, doucement, sans effort.
Into this reality, and slowly and smoothly transition.
C'était La Renaissance Psyché, avec Amanda Fielding, Carl Smith, José Montemayor, Stephen Reed, Valérie Bonnel, Élise Grand-Georges, Vincent Verroust. Et les voix de Léa Drouet, Didier Lagarde, Mathieu Farizier, Rayanne Dinstag et Mélodie Ziegler. Traduction Mélissa Foust. Documentation musicale Romain Couturier. Coordination Perrine Kervran, accompagnée de Marivonne à Bolivie. Prise de son Frédéric Kérou et Bernard Laniel. Mixage Bruno Mourlan. Un documentaire de Marie Chartron et d'Ifi Mariani.
halluciné, routard, parano, hippie ou vieux réac, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Katmandou, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster, entre autres, sur l'application Radio France, nous suivre sur la page Facebook de France Culture, sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, nous irons explorer la famille. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage, et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, une vie, une œuvre et l'expérience.